Chapitre 55. Pendant que Saga prend sa douche au club de boxe, Juna appelle son ancien chef, Carlos, pour s'assurer que la police se trouve bien chez Absalon Rajen. Il fait 5 tentatives avant d'abandonner et de laisser un message sur le répondeur. Il l'informe qu'on lui a promis une libération conditionnelle et qu'il aimerait interroger Absalon Rajen au plus vite. Ça nous permettra peut-être d'arrêter le tueur avant que d'autres personnes meurent, termine-t-il. Juna et Saga quittent le club de boxe et se rendent ensemble sur le parking de l'école de musique de l'autre côté de la rue. Werner a promis de s'occuper personnellement de ta libération, dit Saga. Si je n'ai pas de réponse rapidement, je dois me présenter à la prison dans 3 heures. Ils traversent la rue, passent les grilles noires et s'enfoncent entre les voitures quand Saga s'arrête tout à coup. Ça alors, mon téléphone ne marche plus, s'écrie-t-elle. On dirait que la ligne est bloquée. Il faut que j'aille au bureau voir ce qui se passe. Il continue le long du mur de briques rouges jusqu'à la Volvo de Juna, quand il voit s'approcher 2 hommes, austères, en costume sombre, équipés d'oreillettes. Dégage de la voiture, Bauer, crie le plus jeune des 2 agents. Saga sort son ordinateur portable du sac de sport et fait ce qu'il dit. C'est Werner qui est derrière tout ça? Demande-t-elle. « Donne-nous l'ordinateur !» lui intime l'agent le plus âgé qui a des cheveux gris coupés à ras. « Celui-ci ?» demande Saga, sans parvenir à réprimer un ricanement. « Oui, » dit-il en tendant la main. Elle le jette par-dessus le toit de la voiture, le regarde tournoyant en l'air avant que Juna l'attrape, le visage parfaitement impassible. Des notes de violon leur parviennent d'une fenêtre ouverte de l'école. Juna se tient immobile, l'ordinateur à la main. Une feuille se détache du grand chêne et tombe lentement. Les 2 agents contournent la voiture et viennent vers lui, l'air autoritaire. Cet ordinateur est saisi, selon la loi. Juste avant qu'ils arrivent, Juna lance à son tour l'appareil par-dessus la voiture. Son reflet scintille brièvement dans le vernis noir du toit. Saga le saisit d'une main et s'éloigne un peu. C'est franchement puéril, dit l'agent le plus âgé, s'efforçant de réprimer son sourire. Ils font demi-tour encore une fois et se dirigent vers Saga. Le plus jeune ajuste ses manchettes. « Ne sois pas idiote, tu sais très bien que t'es obligé de nous le donner. »« Non, » répond Saga. Elle glisse le mince ordinateur dans une bouche d'égout. Ça clapote tout au fond quand il atterrit dans l'eau. Les 2 agents s'arrêtent et la regardent. « Ça, c'était quand même un peu con, non ?» dit l'homme âgé, le front plissé. « Il faut que tu viennes avec nous, Bauer. » s'impatiente l'autre. « Vous auriez dû voir vos têtes, » sourit-elle, avant d'obtempérer. Longeant la façade de briques rouges, elle semble toute petite entre les 2 agents. L'eau qui goutte de ses cheveux mouillés fait scintiller son blouson de cuir. « Je peux faire quelque chose pour toi, Saga ?» lance Juna derrière elle. « Il faut que tu appelles Werner, » répond-elle en se tournant vers lui. « Il a promis que tu n'aurais pas à retourner en prison. » Une fois Saga disparue dans la voiture des agents, Juna sort son téléphone, tente à nouveau de joindre Carlos, puis appelle le standard de la CEPO. « Je voudrais parler à Werner Sandeen. Il est en réunion. Passez-le-moi quand même. C'est de la part de ?» demande la femme. « Je m'appelle Juna Lina. Il sait qui je suis. » Juna entend un bruissement dans le combiné, puis une voix préenregistrée qui l'invite à suivre la CEPO sur Twitter et Facebook. La voix s'arrête net quand la femme revient en ligne. « Il dit qu'il ne vous connaît pas, » annonce-t-elle sur un ton réservé. « Dites-lui qu'il est en réunion, il ne peut pas vous parler pour le moment, » l'interrompt-elle et elle raccroche avant qu'il ait le temps de poursuivre. Sachant parfaitement que c'est en vain, il appelle le cabinet du Premier ministre et dit que le ministre attend son appel. D'une voix affable, le secrétaire le prie d'envoyer un mail au greffier du cabinet. « Vous trouverez l'adresse sur notre site, » précise-t-il avant de raccrocher. Juna monte dans la voiture et tente de joindre Janus Mikkelsen, mais il tombe immédiatement sur un message automatique indiquant que le numéro n'est pas attribué. Il essaie avec les autres contacts du téléphone qu'on lui a prêté, mais aucun n'est en service. Il consulte sa montre. S'il se met en route tout de suite, il pourra se présenter à Kumla à l'heure. Il n'a pas d'autre choix. Il ne peut pas prendre le risque de voir sa peine de prison rallongée. Il démarre et fait une marche arrière, s'arrête et laisse passer une femme avec un chien guide d'aveugle avant de tourner à droite vers North Toul. Aux informations, il apprend que les services de la sûreté suédois ont déjoué un sérieux attentat contre le pays. Comme d'habitude, les détails autour de l'intervention de la force publique ne sont pas communiqués et on ne précise pas si les terroristes suspectés ont été arrêtés. L'attaché de presse de la CEPO décrit des investigations stratégiques d'envergure et une opération commando particulièrement réussie.